Re-bonjour. Dernière séance donc du séminaire. Et je redémarre par une mention de Michel Foucault. La distinction foucauldienne entre énoncé et proposition que nous avons introduite et considérée la semaine dernière mériterait qu'on s'y attardât davantage. Mais comme là encore, il nous faut sinon conclure, du moins ponctuer le travail effectué dans ce séminaire cette année, je me contenterai d'une simple remarque. J'ai à maintes reprises souligné l'importance du reenactment dans l'activité de l'historien, la réeffectuation, la remise en acte. Et donc j'ai souligné l'importance de ce geste dans l'activité de l'historien et d'abord, avant tout, surtout peut-être dans celle de l'archéologue. Rappelant que pour Foucault, les concepts ne sont point, je cite l'archéologie du savoir, page 96, ne sont point formés directement sur le fond qu'il appelle approximatif, confus et vivant des idées, mais que les concepts sont formés à partir des formes de coexistence entre des énoncés, formes de coexistence entre des énoncés, et que leur travail, travail de l'historien, de l'archéologue, qui ont essentiellement affaire à des énoncés, que leur travail consistait, dis-je, dans une large mesure dans la remise en acte, la réeffectuation, reenactment, des pensées exprimées dans des énoncés entendus comme autant d'actions passées. Donc, ayant souligné cela, je peux évidemment, dois dire que cette distinction entre énoncé et proposition est fondamentale pour mon propre travail et pour le travail, je considère, bon, je vais me tromper, mais enfin, certes, de l'historien. On pourrait en dire autant de la différence straussonienne faite par Strawson entre statement et sentence, dont Skinner a rappelé l'importance méthodologique en histoire en faisant le prolongement de la différence bien connue entre signification et usage, meaning and use. La thèse de Skinner est la suivante: la récurrence de certaines phrases, sentences, censées véhiculer une idée, n'est pas un objet historique en soi. Ce qui compte, c'est la diversité des statements, des énoncés, des prises de position, faits avec les mêmes mots par une diversité d'agents ayant des intentions, le cas échéant, différentes, voire très différentes, voire opposées. La sentence prise en dehors des statements que divers agents ont faites avec elle n'est pas un bon objet d'étude pour l'historien. Pour Skinner, la récurrence de certaines sentences, de certaines phrases, ne nous dit rien d'intéressant historiquement, tant que, pour reprendre la thèse de Collingwood, qui m'est chère, on ne sait pas à quelle question telle expression était censée répondre. Elle ne dit rien, en effet, sur le statut que telle ou telle idée a pu avoir à différentes époques. What status a given idea may have had at various times, ni précise Skinner sur le domaine d'usage qui a pu être le sien, what range of uses the expression itself could sustain. Mon mot de passe. C'est le seul problème philosophique vraiment intrigant que je serais arrivé à poser tout au long de ce semestre, c'est quel peut bien être son mot de passe, n'est-ce pas? Mais tant que je connais la réponse, ça roule, mais bon, le jour où le Alzheimer, qui est la moitié d'un Alzheimer aidant, je ne m'en souviendrai plus ou ne me rappellerai que la moitié, je ne sais pas ce qui se passera dans ce séminaire, n'est-ce pas? Mais enfin, bon, ni dans ce cours d'ailleurs. Bon, en tout cas, Skinner écrit ceci: The persistence of the expressions tells us nothing reliable at all about the persistence of the questions which the expressions may have been used to answer, or of the intentions generally of the various writers who may have used the expressions. Durant la dernière séance consacrée en partie au statut des fictions, thème imposé par les complexes de questions et de réponses relatifs au statut ontologique des universaux depuis l'Antiquité tardive, et la confrontation entre les thèses néoplatoniciennes et les thèses stoïciennes, donc durant cette dernière séance consacrée en partie au statut des fictions, nous avons évoqué la montagne d'or, the Golden Mountain, qui nous a conduit de la question du statut de l'universel à la distinction entre énoncé et proposition. Deux univers épistémiques distincts, la question de l'universel et la distinction entre énoncé et proposition, mais deux univers qui communiquent précisément dans la mesure où, dans l'histoire de la philosophie, la question du statut ontologique de ce qu'on a appelé les propositions en soi ou les vérités en soi a ouvert à son tour les portes du shadowy platonic world of being, cette sorte de monde des ombres, n'est-ce pas, platonicien, évoqué par Russell à propos de la montagne d'or, évoquée critiquement évidemment par Russell, à propos de la montagne d'or et de la distinction de son grand adversaire Meinong, la distinction meinongienne entre existence, existieren, et subsistance, bestehen, le bestehen étant le mode d'être des entités qui peuplent ce royaume platonicien des ombres, n'est-ce pas, que évidemment Meinong ne considérait pas comme un tel monde. Bon, je voudrais aujourd'hui vous montrer, en guise de conclusion, mais aussi d'introduction au séminaire de 2015, qui sera partiellement consacré aux théories de la représentation et du jugement, vues sous l'angle de la théorie des fonctions psychiques. Je voudrais aujourd'hui donc vous montrer, en guise de conclusion, deux autres exemples de trajets effectués par des entités fictives depuis leur domaine épistémique primitif, celui où on les a utilisés pour la première fois, un domaine particulièrement intéressant pour notre propos, où elles ont fini par échouer, si je puis dire, à savoir le problème de du jugement, la question de la théorie du jugement. Vous vous rappelez, j'espère, la distinction de Leonard Linsky, sur laquelle nous étions restés à la fin du séminaire la semaine dernière. La distinction de Leonard Linsky entre ce dont on parle au sens authentique du terme et ce dont on ne parle pas vraiment, c'est-à-dire ce dont on ne peut rien dire de vrai ou de faux. À moins, je cite Linsky, d'en faire les personnages d'une histoire ou d'un conte de fées. Alors, c'est ce dont on ne parle pas vraiment, à moins d'en faire les personnages d'une histoire d'un conte de fées, c'est le groupe de ce que Linsky appelle le groupe des choses qui n'existent pas, qui comprend, selon lui, et entre autres évidemment, je cite, l'actuel roi de France, c'est le célèbre exemple de Russell dans sa controverse avec Meinong, l'actuel roi de France est chauve. Est-ce que cette phrase est vraie ou fausse, sachant qu'il n'y a pas de roi de France, quoi qu'on ait pu dire sur la monarchie républicaine en France depuis... Mais bon, il n'y a pas... l'actuel roi de France, la montagne d'or, le cercle carré, la licorne, la chimère et l'autobiographie d'Hemingway. Je ne sais pas ce qu'il avait contre Hemingway, mais enfin bon... Personnellement, c'est... Enfin, bon, bref. Eh bien, alors, en tout cas, mettant à profit ce qui vient d'être dit à propos de la différence entre phrase ou proposition et statement, énoncé, j'aimerais évoquer aujourd'hui avec vous deux de ces choses qui n'existent pas, la licorne et la chimère. Malgré tout ce qu'on pourrait croire, en allant admirer à deux pas d'ici les extraordinaires dames à la licorne du musée de Cluny. C'est cette merveilleuse tenture de six tapisseries tissées entre 1484, je crois, et 1500. Malgré tout ce qu'on pourrait croire en allant donc au musée de Cluny plutôt qu'au Collège de France, les philosophes médiévaux, les logiciens en tout cas, ne se sont pas occupés de la licorne. La gloire philosophique de la licorne est due à Kant, via Bolzano. Une parenthèse quand même, quelqu'un a bien parlé de la licorne au Moyen Âge, c'est Marco Polo. Marco Polo, dans le chapitre consacré, dans le devisement du monde, consacré à Java la mineure, ce n'est pas une danse, hein, c'est Sumatra probablement, mais enfin, quand on part du royaume de Ferlec, on entre, écrit-il, au royaume de Bassement, qui est à la sortie de Ferlec. Prenez le guide du routard, vous verrez où c'est. Ce Bassement est un royaume par lui-même. Ils y ont leur langage, mais ils sont des gens qui n'ont nulle loi, sinon celle des bêtes. Ils se réclament de la suzeraineté du grand camp, mais ils ne lui payent nul tribut parce qu'ils sont si loin que les gens du grand camp ne pourraient y aller. Et même tous ceux de l'île, ils se réclament pour siens, mais sans payer le tribut. Donc c'est... Quelquefois seulement, lui font présent de choses étranges. Donc, ils envoient quelque chose au grand camp. Éléphants, unicornes ou autres. Et spécialement une espèce d'autour noir par l'entremise de ceux qui passent par là. Ils ont mains éléphants sauvages et assez d'unicornes qui ne sont guère moins gros qu'un éléphant. Ils ont le poil du buffle, le pied comme celui de l'éléphant, une corne au milieu du front, très grosse et noire. Et vous dit qu'il, alors cette unicorne, ne fait aucun mal aux hommes et aux bêtes avec sa corne, mais seulement avec la langue et les genoux, car sur sa langue il a les épinettes longues et très aiguës. Quand il veut détruire un être, il le piétine et l'écrase par terre avec les genoux, puis lui inflige les maux qu'il fait avec sa langue. Il a la tête comme sanglier sauvage et la porte toujours inclinée vers la terre. Il demeure volontiers dans la boue et la fange, parmi les lacs et les forêts. C'est une très vilaine bête à voir et dégoûtante. Il n'est point du tout comme nous, d'ici, disons et décrivons, quand nous prétendons qu'il se laisse attraper par le poitrail, par une pucelle. C'est tout le contraire de ce que nous croyons. Bon, mais on l'appelle quand même unicorne. Évidemment, ce qu'il a vu et nommé unicorne, ce n'est rien d'autre que le rhinocéros de Sumatra, n'est-ce pas ? Mais je laisse de côté ce point passionnant en vous renvoyant à un très beau livre quand même que je vous conseille pour les vacances, Kant et l'ornithorynque d'Umberto Eco, où vous trouverez dans le chapitre intitulé « Kant, Peirce et l'ornithorynque » la section Marco Polo et la licorne, qui reste une très belle page, comme pratiquement toutes les pages de Umberto Eco. Bon, alors la gloire philosophique de la licorne est due à Kant. Il n'est pas question des universaux, hein, mais de la thèse probablement la plus célèbre de Kant en logique et métaphysique. Dans Funktion und Begriff, conférence donnée à Iéna en 1891, Frege félicite Kant, ça n'arrive pas souvent, Frege félicite Kant d'avoir montré que, je cite, « le concept d'être ne peut jamais être prédicat, mais seulement sujet dans un jugement. » L'expression retient l'attention. En fait, le concept d'être ne peut jamais être prédicat, mais seulement sujet dans un jugement. En fait, elle figure déjà chez Bolzano, qui, dans le tome 2 de sa théorie de la science, Wissenschaftslehre, l'attribue à Kant, traitant précisément des jugements d'existence, autrement dit, de ces propositions dans lesquelles est affirmé ou nié un être ou une existence effective, wirklich. comme par exemple « Je suis », « Dieu est », voilà deux affirmations. Les vérités en soi n'ont pas d'être. Bolzano note que la plus grande confusion règne dans l'évaluation de ce type de jugement ou de proposition. Comment comprendre, par exemple, que les vérités en soi n'ont pas d'être? Mais c'est à ce moment qu'il cite, alors non pas le grand chinois, mais le philosophe de Königsberg, c'est le même, Kant. Dans l'unique fondement possible d'une preuve de l'existence de Dieu, dit Bolzano, Kant a écrit ceci. Le concept d'être ne peut jamais être prédicat, mais seulement sujet dans un jugement. Ainsi, parlons-nous de façon impropre quand nous disons qu'à une chose revient un être. Au lieu de dire « il y a une chose existante, un être effectif, à qui reviennent telle et telle propriété ?»« Es gibt ein existierendes Ding, ein wirkliches, dem diese und jene Beschaffenheiten zu kommen. » Donc ça c'est dans Bolzano, théorie élémentaire, les propositions existentielles d'Asein Sätze. Es gibt ein existierendes Ding, ein wirkliches, dem diese und jene Beschaffenheiten zu kommen. Cette phrase pourrait être de Brentano. Elle est de Kant, citée par Bolzano. Ou plutôt, elle est de Bolzano, résumant Kant, car elle ne figure pas telle qu'elle dans Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, l'unique fondement possible d'une preuve de l'existence de Dieu. Que dit au juste Kant? C'est là qu'il faut tendre l'oreille et ouvrir les yeux. Dans l'unique fondement possible d'une preuve de l'existence de Dieu, Kant parle de la licorne. Ou plutôt, il parle de deux sortes de licornes. Car il y a, plutôt, on distingue, deux sortes de licornes. La licorne de terre et la licorne de mer, celle qu'en français on appelle narval. Kant note que l'existence revient à la licorne de mer, mais pas à celle de terre. Dem See-Einhorn kommt die Existenz zu, dem Land-Einhorn nicht. Qu'est-ce que cela signifie? Dem See-Einhorn kommt die Existenz zu, dem Land-Einhorn nicht. Cela signifie, dit-il clairement, simplement que la représentation de la licorne de mer est un concept expérimental, à savoir la représentation d'une chose existante. Die Vorstellung des See-Einhorns ist ein Erfahrungsbegriff, das ist die Vorstellung eines existierenden Dinges. Un concept expérimental est ce que les Grecs, les Latins depuis Boès et les médiévaux appelaient concept authentique, hein, tiré d'une chose sensible, on a suffisamment vu cela dans les semaines précédentes, tiré d'une chose sensible, ici, eines existierendes Dinges. Et de fait, voici des licornes de mer. Ou narval. Vous imaginez le commerce que ça a pu entretenir. Réciproquement, et en complétant le propos de Kant, la représentation de la licorne de terre n'est pas un concept expérimental. C'est la représentation d'une chose non existante. Cela ne veut pas dire que, pour Kant, il y a des choses non existantes. Bien au contraire. Il faut veiller à l'expression et je dirais, comme tout vieux qu'ancien, il faut admirer le génie de Kant. Que dit en effet Kant? Que la proposition la licorne de mer existe n'est pas entièrement correcte. N'est véritablement correcte que l'expression inverse, à savoir que, je cite, à un certain animal marin existant, reviennent ensemble les prédicats que j'attribue mentalement à la licorne. Ou à une licorne. Einen gewissen existierenden Seetiere kommen die Prädikate zu, die ich an einem Einhorn zusammen gedenke. Attribuer mentalement un gedenke. Que dire dans ces conditions de la licorne de terre? Rien. Pas même qu'elle n'existe pas, ce qui m'obligerait à l'assumer au sens meinungien du terme annehmen. Il n'y a pas de secret de la licorne, hein? On ne saurait même parler d'elle. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'à aucun animal terrestre existant ne reviennent ensemble les prédicats que j'attribue mentalement à une licorne. Kant va plus loin. Prenant acte de ce que l'existence, ou plutôt le Dasein, alors ici Dasein a le sens kantien, qui est le sens qu'avait le mot en allemand avant Heidegger, qui est effectivement l'être, l'être effectif, l'existence. Le Dasein est couramment prédiqué dans le langage ordinaire. Il explique que dans tous les cas où cela se produit, le prédicat « est » ne porte pas tant sur la chose dont on parle que sur la pensée qu'il y a d'elle. Lorsque dans l'usage commun, im gemeinen Redegebrauch, du reden, hein, de la parlure, de la parole, du parler, du discours. Lorsque dans l'usage commun, le Dasein se produit comme prédicat. Das Dasein als ein Prädikat vorkommt. C'est moins un prédicat de la chose elle-même, ein Prädikat von dem Dinge selbst, que bien plutôt von dem Gedanken, den man davon hat, que de la pensée qu'on en a. Donc je vous redonne le texte entier. Dans le cas où, dans le langage courant, le terme existence apparaît comme un prédicat, il s'agit moins d'un prédicat de la chose elle-même que de l'idée qu'on en a. Par exemple, existence, existence, convient à la licorne de mer, non à la licorne de terre. Ceci ne signifie rien d'autre que la représentation de la licorne de mer est un concept d'expérience, c'est-à-dire la représentation d'une chose existante. C'est aussi pourquoi, pour montrer le bien fondé de cette proposition concernant l'existence d'une telle chose, on ne cherche pas dans le concept du sujet, car on n'y trouve que des prédicats de la possibilité, mais dans l'origine de la connaissance que j'en ai. Il faudrait passer un an sur cette phrase qui est absolument géniale, en fait, hein. Parce que dans le concept du sujet, on ne va trouver que des prédicats de possibilité. Les prédicats réaux, les prédicats de la chose qui définissent la Sachlichkeit, la choséité d'une chose, ce sont des prédicats compossibles qui en mesurent la cogitabilité et la possibilité. Si vous mettez ensemble des prédicats qui s'excluent mutuellement, vous n'obtiendrez pas une chose ni un sujet. Vous n'obtenez rien du tout. Il n'y a rien qu'on trouve dans le concept d'un sujet autre que, ou d'une chose, que des prédicats de la possibilité. Si vous parlez de l'existence maintenant d'une telle chose, ce à quoi vous vous référez en fait, c'est à la connaissance que vous en avez. Et une connaissance peut être de deux sortes, elle peut être empirique, auquel cas vous avez eu un contact direct avec la chose, par la sensation et par l'intuition, et sinon c'est une représentation imaginaire, et d'aucune façon vous n'avez eu un contact en présence avec la chose même. Donc, en fait, lorsque, pour montrer le bien fondé d'une proposition concernant l'existence d'une chose quelconque, vous avez à faire quelque chose, eh bien, vous ne cherchez pas dans le concept du sujet parce que dans le concept du sujet, vous ne trouverez que les prédicats réaux de la chose qui définissent la chosalité de cette chose, vous aurez à vous demander comment vous avez fait connaissance avec la dite chose. Est-ce empiriquement, expérimentalement, est-ce dans une expérience possible ou pas? On dit donc, ou on ne dit pas, ça dépend des cas, je l'ai vu, ou je l'ai appris de quelqu'un qui l'a vu. C'est donc s'exprimer de façon pas tout à fait correcte, ce qui est une manière de dire de façon entièrement incorrecte, que de dire une licorne de mer est un animal existant. Mais bien au contraire, ce qu'il faudrait dire, c'est à un certain animal marin existant conviennent les prédicats que je pense réunis dans une licorne de mer. On peut spéculer à l'infini sur le sens exact que Kant attribue à sa théorie, y voir toutes sortes d'anticipations, de toutes sortes de doctrines plus ou moins vertueuses. Un fait demeure, pour Kant, ce que Brentano appellera la reconnaissance, Anerkennung, de l'existence du sujet, ou le rejet, Verwerfung, du dit sujet, eh bien cette reconnaissance ou ce rejet est bel et bien première par rapport à ce que l'on est censé en prédiquer ensuite, une fois le sujet reconnu ou rejeté. Je pense ici à la théorie brentanienne dite du Doppelurteil, du double jugement, qui veut que juger que un S est P, un sujet est P, prédicat boulet, c'est porter un double jugement. Un premier jugement reconnaît, anerkennt, l'existence de S, ou bien pas. Et un deuxième attribue à cette S ainsi reconnue le caractère P à titre de prédicat. Voilà la théorie du jugement double. Heidegger a commenté le passage de Kant dans les problèmes fondamentaux de la phénoménologie. Page 55-56, traduction française Courtine, page 63, dans le texte consacré à Kant, auquel nous avons fait allusion au début de l'année, dans le cours. C'était la première des quatre thèses, la thèse T1, mentionnée lors du cours du 3 avril. Vous pourrez vous y reporter. Voici ce que Heidegger écrit. Si, d'après Kant, dans le langage courant, on emploie le Dasein, c'est-à-dire l'existence, hein, ici, ce n'est pas du tout Dasein au sens heideggerien du terme, c'est bien le Dasein, qui s'écrivait d'ailleurs avec un Y la plupart du temps, kantien. Si d'après Kant, dans le langage courant, on emploie l'être là, Dasein, comme prédicat. Autrement dit, si demeure ce fait qui va contre la thèse kantienne, que le Dasein, l'être là, l'existence, n'est pas un prédicat. Donc Heidegger part de l'espèce de contradiction existante entre l'usage commun et l'usage philosophique rigoureux et strict, qui serait conforme à la juste théorie de l'existence. Eh bien, si d'après Kant, dans le langage courant, on emploie l'être-là comme prédicat, autrement dit, si demeure ce fait qui va contre la thèse kantienne que l'être-là n'est pas un prédicat, il s'agit dans ce cas, répond Kant, bien moins d'un prédicat de la chose même que plutôt de la pensée que l'on en a. Quand, par exemple, on attribue l'existence au narval, cela signifie pour Kant, la représentation du narval est un concept tiré de l'expérience, c'est-à-dire la représentation d'une chose qui existe. La proposition « Dieu existe » devrait, pour parler avec précision, signifier « quelque chose qui existe est Dieu ». Mais évidemment, il faudrait que vous eussiez un contact expérimental avec la chose représentée par l'expression « Dieu ». En modifiant ainsi la proposition, Kant veut faire comprendre que l'existence n'est pas pensée dans le prédicat, mais dans le sujet de la proposition. L'existence est pensée dans le sujet, non dans le prédicat. Ce que met en relief ici Heidegger, c'est exactement le compliment que Frege faisait à Kant. Alors, notez que la vraie phrase de Kant n'est pas « l'existence n'est pas un prédicat », mais bien « l'existence n'est pas un prédicat réel », un prédicat de la chose dans sa réalité, sa Sachlichkeit. Et vous trouverez de très lucides et remarquables analyses sur ce point dans les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, paragraphe 4, page 20, traduction, page 33, les quatre thèses sur l'être et les problèmes fondamentaux de la phénoménologie. La thèse kantienne, l'être n'est pas un prédicat réel. Heidegger analyse la teneur de la thèse kantienne étant « Sein ist kein reales Prädikat ». Bon. Dans l'unique fondement possible d'une preuve de l'existence de Dieu, il est question de « Dasein », mais vous voyez qu'il est dit « Das Dasein ist gar kein Prädikat oder Determination » von irgendeinem Dinge, ce qui revient à dire en allemand, en bon allemand, pour être compris de tout le monde, que ça n'est pas ein reales Prädikat, n'est-ce pas, ce qu'on n'entend pas vraiment en allemand, enfin, l'homme de la rue, en tout cas, enfin, maintenant, si, mais bon, en tout cas. Dans l'unique fondement, donc, il est question de Dasein, Das Dasein ist gar kein Prädikat oder Determination von irgendeinem Dinge, et aussi, vous l'avez vu une fois, d'Existenz à propos de la licorne. Avant d'aller plus loin, donc retenons bien cette formule. Dans les cas où, dans le langage courant, le terme existence apparaît comme un prédicat, il s'agit moins d'un prédicat de la chose elle-même que de l'idée qu'on en a. Cette formule est une formule capital à mes yeux pour l'archéologie du sujet agent. C'est une formule capitale que nous découvrons ici en suivant la piste du bestiaire fabuleux de la querelle des universaux et de la problématique de la référence vide. Cette formule capitale de Kant, soulignée par Heidegger, a une contrepartie immédiate et évidente. Pourquoi est-ce que Frege a fait un compliment à Kant? Eh bien, parce que cette contrepartie, c'est la théorie de Frege, selon laquelle l'existence est un prédicat de second ordre, un prédicat de prédicat, la propriété d'un concept. Comme l'écrit Frédéric Neff dans « Qu'est-ce que la métaphysique ?», ce beau livre paru chez Gallimard en collection de poche, dire « la Lune existe », c'est attribuer au concept de Lune, satellite de la Terre, corps céleste dépourvu de vie, etc., une propriété, celle de dénoter un objet, en langage kantien, d'être la représentation d'une chose existante. Vous voyez, donc concept de second ordre. En tant que médiéviste, je veux, quant à moi, souligner qu'on rencontre la formule de Kant bien avant l'âge classique. Dès le XIIe siècle, à propos d'une autre de nos entités fictives, en l'occurrence la chimère, exemple de chose impossible, et même à propos d'une chose qui n'existe plus après avoir existé un temps, du moins le dit-on, Homère. Je me contenterai ici d'un exemple, la reprise de thèse de Guillaume de Champeau sur la prédication accidentelle, la reprise de ces thèses par Abélard, dans sa dialectique, la Dialectica. Ce Guillaume de Champeau, Guillaume, Guilhelmus, est le même que celui qu'Abélard a harcelé lors de la querelle des universaux et contraint, comme il le raconte lui-même, Abélard, dans l'histoire de mes malheurs, les siens, qu'il a contraint donc de renoncer à sa première théorie réaliste des universaux. Pourtant, ce même Guillaume a d'autres théories qui trouvent grâce aux yeux d'Abélard, qui ne répugne pas à évoquer le personnage sous l'appellation de « mon » ou de « notre maître » V. Point, n'est-ce pas, probablement pour Wilhelmus, prononcé à la bretonne, j'en sais rien, mais bon, enfin Guillaume en tout cas, maître V, qui figure ailleurs sous le nom de maître G. Point, dit-il, considérait la prédication accidentelle, la prédication d'un accident, hein, comme une locution figurée et impropre. Il appelait, maître V, locution impropre, celle dont les mots offrent, pris ensemble, un autre sens que celui qu'ils semblent avoir pris séparément. Vous avez plusieurs mots, pris séparément, ils ont un certain sens, pris ensemble, ils en ont un autre. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a un usage, que la phrase formée à partir d'eux est figurée. pris séparément, ils ont un certain sens, selon leur forme vocale, dit le maître d'Abélard, pris séparément, pris ensemble, eh bien, ils ont un autre sens qu'on va appeler figuré. Donc c'est là que nous retrouvons Homère et que nous attend la chimère. Alors, mauvaise nouvelle, Homère est mort, n'est-ce pas ? Bon. Homère est mort. Bon. Mais dire que Homère est poète, Homerus est poeta, selon Guillaume de Champeaux, ce n'est pas prédiqué sur Homère. Homère est un nom vide qui ne renvoie à rien, puisqu'il n'y a plus aucune chose du monde qui soit Homère ou dont il soit vrai de dire qu'elle a pour nom Homère. Donc dire que Homère est poète, ce n'est pas prédiquer sur Homère qui n'est plus, c'est dire, là c'est quand même extraordinaire comme paraphrase, hein, que l'œuvre d'Homère existe, qu'il a composée en tant que poète. Homeri opus existit. Voilà le sens de Homerus est poeta. Homeri opus existit quod ex officio poetae, que dans son office, dans son activité, que du fait de son activité de poète, eh bien, il a composé. Operi itaque Homeri esse attribuitur. C'est à l'œuvre d'Homère qu'on attribue l'être, quando Homero aliquid, quand on attribue l'être à Homère. Même, donc c'est donc à l'œuvre d'Homère que l'être est attribué, pas à Homère. Ainsi, Maître V, nous dit toujours Abélard, entendait la phrase Homère est poète, non du poète, mais des vers qu'il avait laissés. De même, la phrase affirmant qu'un tyran mort vit dans ses fils ne porte pas sur le tyran lui-même, comme la construction semble le suggérer, mais sur ceux qu'il a engendré et qui continue d'exercer son pouvoir tyrannique. Le terme au nominatif, Homerus, qui semble être le sujet de la phrase, ne l'est pas en réalité. Voilà la thèse d'Abélard. De Guillaume de Champeaux, que suit Abélard ici. Plus exactement, ce n'est pas le véritable sujet d'attribution. Dans Homerus est poeta, Homerus est au nominatif. Mais nous l'utilisons, dit Guillaume de Champeaux, avec la signification d'un mot à l'oblique, en l'occurrence Homeri, au génitif, au sens de le poème d'Homère. Poema Homeri. De Homère est poète à d'Homère il y a poème, telle est la réversion. Donc, vous voyez, c'est une distinction très remarquable entre sujet grammatical d'une phrase et sujet logique réel d'attribution. Mais la chimère a rendez-vous avec le centaure, comme vous allez le voir, et Abélard avec Brentano. Bon, encore un peu de patience. D'abord la chimère. Soit la proposition « chimera est opinabilis ». La chimère est littéralement opinable. Question, sur quoi porte cette phrase ? La chimère est opinable, pensable, concevable. Sur la chimère ? La réponse de Guillaume est remarquable, elle porte sur opinabilis. Le mot opinabilis vient d'Aristote. Il traduit le grec doxaston. Opinable. Opinion étant doxa. L'opinable, qu'est-ce que c'est ? C'est le terme d'une relation psychique. Mais sa caractéristique est que dans cette relation-là, la relation qu'on appelle d'opinion, doxa, le terme opinable, doxaston, n'existe pas toujours. C'est une relation psychique, dans laquelle le terme de la relation, ce sur quoi elle est dirigée, n'existe pas toujours. C'est ce que dit clairement le De Interpretatione d'Aristote à propos du non-étant. Il n'est pas vrai de dire du non-étant que parce qu'il est un doxaston, un opinable, il est un certain étant. De fait, la doxa qui porte sur lui n'est pas qu'il est, mais qu'il n'est pas. Alors voilà le problème. Comment comprendre qu'un opinable ne soit pas toujours un étant ? Il y aurait une réponse stoïcienne, distinguer quelque chose et étant, comme on l'a vu dans les semaines précédentes, le ti et on. On a vu en effet que le quelque chose pouvait être soit étant, soit non étant, et que ce qui s'opposait au quelque chose, c'était le non quelque chose. Rappelez-vous le texte d'Origène. Mais on n'est pas chez Origène, on est chez Guillaume de Champeau, et Guillaume de Champeau lit Aristote, point barre. C'est donc ailleurs que chez Origène, qui n'a pas lu, que Guillaume doit trouver sa réponse, et il la trouve. La réponse de Guillaume est remarquable, opinable, ne renvoie pas à la chose pensable, au pensable, il renvoie au pensant. Dans le cas de la chimère à celui ou à celle qui, dans la réalité, supporte ou soutient, est le sujet de l'opinio de chimera, l'opinion qui porte sur la chimère. Donc le mot opinabilis renvoie à quelqu'un ou quelqu'une qui pense à la chimère. Autrement dit, et c'est ce que vous avez au tableau, le prédicat opinabilis ne renvoie pas à une propriété de la chimère n'étant pas, elle n'a pas, elle ne peut pas avoir de propriété. Opinabilis renvoie à une propriété attribuable à celui ou celle qui a une représentation de la chimère, qui rend la chimère opinable, c'est-à-dire de temps à autre opiné. Y est pensable ou concevable, signifie il y a un X capable de penser Y. C'est-à-dire un X qui a pensé ou pense ou pensera Y. Ou, pour ajouter, peut, pourrait penser Y. Donc, dans chimera est opinabilis, le sujet n'est pas le sujet grammatical. Chimera, mais le sujet logique, le sujet de l'attribution de l'acte de pensée. Et le sujet d'attribution de l'acte de pensée, c'est celui qui, dans la réalité, fait quelque chose. Et ça ne peut être que celui qui pense à la chimère et qui, précisément, dans la phrase, n'est pas nommé. Celui qui, dans la phrase, n'a pas de nom. Le seul nom, c'est chimera. Quant au prédicat opinabilis, il renvoie moins à une propriété de la chimère, qui n'étant pas, n'a pas et ne peut pas avoir de propriété, qu'à l'acte d'opiner ou de penser attribuable à celui qui a d'elle une représentation, hein, qui fait qu'elle est dite opinable ou pensable. En un mot comme en mille. Dire chimera est opinabilis, c'est dire qu'il y a un X imaginant, opinant une chimère, ou bien encore en donnant à la thèse une forme adverbiale qu'il y a un X qui pense chimériquement. Abélard Fodor Ducasse. Il y a un X qui pense chimériquement. Comme dans la théorie adverbiale, comme on dit aujourd'hui, du jugement, critiquée notamment par Fodor, grand linguiste, où « seeing a unicorn » devient « seeing unicorny », ou seeing a dragon, seeing dragonly. Cette théorie est appelée théorie adverbiale. Il y a une théorie adverbiale du jugement, il y a une théorie adverbiale de la perception, et cette théorie adverbiale a été introduite par le seul philosophe américain né à Angoulême, à savoir Kurt John Dukase, 1881-1969, en ces termes, dans Moore's Refutation of Idealism, « Blue, bitter, sweet, etc. are names not of objects of experience, nor of species of objects of experience, but of species of experience itself. » Bleu, amer, doux, ne sont pas des noms d'objets de l'expérience, ni d'espèces d'objets de l'expérience, mais d'espèces de l'expérience elle-même. Of experience itself. What this means is perhaps made clearest by saying that to sense blue is to sense bluely. Voir, enfin sentir bleu, évidemment sentir du bleu, enfin, mais. To sense blue is to sense bluely, just as to dance a waltz is to dance waltzily, i.e. in the manner called to waltz. To jump a leap is to jump leapily, in the manner called to leap. Voilà la théorie dite adverbiale. Introduite chez les anglophones par Kurt John Dukase. J'y reviendrai l'année prochaine. La théorie de Guillaume de Champeau, qu'Abélard présente de manière nuancée, n'a pas reçu beaucoup d'attention de la part des historiens, ni d'ailleurs des philosophes. Le premier à avoir remarqué l'intérêt de l'analyse guillelmo-abélardienne est Charles-François-Marie Comte de Rémusat, né à Paris le 13 mars 1797 et mort le 6 juin 1875, ce qui ne nous rajeunit pas. Donc Charles de Rémusat, un des auteurs du XIXe siècle, qui ont sur les pas de Victor Cousin, dont il a été tellement question dans ce séminaire, un de ces auteurs qui ont découvert Abélard et l'ont apprécié au point, en l'occurrence, de rédiger, comme l'a fait Charles de Rémusat, sur lui, le premier grand livre sur sa vie et son œuvre, en deux volumes, en 1845. Rémusat résume de manière remarquable la thèse de Guillaume de Champeau résumée par Abélard, puisqu'il présente en fait le terme pensable ou concevable comme une dénomination externe ou extrinsèque de la chimère. En langage technique, on dirait une dénomination causale. La proposition « la chimère est concevable ». Alors 472, c'est le numéro de la note, hein, correspondant, il y a une avalanche de notes. Non, hein. La proposition « la chimère est concevable » se comprend figurativement. Non qu'elle attribue à aucune chose la forme de la chimère, ou ce qui n'est pas, mais parce qu'elle produit une certaine pensée dans l'âme de celui qui pense à la chimère. Si donc par la signification d'un nom, nous n'entendons point une forme essentielle, mais seulement ce qui engendre un concept, l'oraison significative sera celle qui fait naître une idée dans l'intelligence. Le nom de signifiant ou significatif est pris de la cause plutôt que d'une propriété. Il convient à ce qui est cause qu'un concept se produise dans l'esprit de quelqu'un. Donc, vous voyez, on en est à un stade purement pragmatique, hein, et à une définition de signification qui est une de celles qu'on donnait au Moyen-Âge. Signifier, c'est susciter, produire, engendrer une intellection dans l'esprit de celui à qui on s'adresse. Bon. Alors, à part Rémusat, quand même, quelques personnes se sont intéressées à la théorie de Guillaume de Champeau. De nos jours, donc, on citera, et je pourrais donner plus de détails ceux qui voudraient m'écrire sur cette question, on peut citer les travaux de Joël Biard, de John Marenbon, d'Irène Rosier-Katache, de Yukio Iwakuma. Avant eux, on peut mentionner William et Martha Neal, qui, dans leur grand livre The Development of Logic, Oxford, 1962, qui qui est toujours à lire, les Neil, donc William and Martha, s'appuyant sur la toute récente édition de la Dialectica par Lambert de Reich, soulignait l'intérêt de la réécriture de Chimera est opinabilis en Anima aliquius opinionem habet de chimera. Donc l'intérêt de la réécriture de la chimère est concevable en l'âme de quelqu'un a une opinion concernant la chimère pour l'histoire de ce qu'ils voyaient eux comme la distinction entre les deux sens existentiels et non existentiels du verbe être. Par la suite, De Reich lui-même, l'éditeur de la Dialectica, a, en passant, vraiment trois lignes, mais trois lignes qui sont intéressantes, attiré l'attention sur la dimension, selon lui, abélardienne de la théorie brentanienne du jugement. Alors, je voudrais dire quelques mots pour terminer là-dessus, sur la thèse adverbiale, la théorie adverbiale du jugement chez Brentano. Brentano n'avait pas lu la Dialectica d'Abélard, puisque elle a été éditée seulement par De Reich dans les années 67-68, mais de 1900. Brentano n'avait pas lu la Dialectica. Cependant, de façon assez extraordinaire, l'une des théories modernes du jugement les plus novatrices, la théorie développée par Brentano lors de sa phase dite réiste, à la fin de sa vie, dans sa dernière philosophie, peut être vue comme une espèce de généralisation de la théorie évoquée par Abélard pour rendre compte de la prédication sur la chimère. En tout état de cause, une des thèses les plus constantes de Brentano est que la reconnaissance an Erkennung d'un penser, accent aigu, ne porte au sens propre que sur son pensant. C'est ce que vous avez là. Dire il y a un A penser, c'est dire il y a un pensant A. A penser et pensant A sont co-référentiels. La co-référentialité des expressions il y a un pensant A et il y a un A penser a une propriété remarquable, elle implique qu'il y a un pensant A. Mais pas qu'il y a un A. Eh bien, cette co-référentialité est une donnée transversale de toute la théorie brentanienne de ce qu'on appelle l'intentionnalité, et c'est la base de la théorie adverbiale de la conscience et du jugement. Brentano a évolué au cours de son travail et de son œuvre. L'évolution de Brentano consiste à passer de l'équivalence de « il y a un A pensé » et de « il y a un pensant A ». Il passe à une thèse beaucoup plus offensive qui est la réduction de « il y a un A pensé » à « il y a un pensant A ». C'est pour éviter le « shadowy world », le monde d'ombre platonicien dénoncé par Russell, que Brentano, bien avant Russell, veut réduire le « il y a un A pensé » à « il y a un pensant A ». Cette formule, cette réduction, et d'abord cette équivalence, mais ensuite cette réduction de « il y a un A pensé » à « il y a un pensant A », vaut pour tout penser. Elle vaudrait évidemment pour la licorne de terre, si Brentano parlait de la licorne, il préfère parler du centaure, chacun a son bestiaire. Alors je résume sa thèse. Les énoncés sur le centaure ne portent pas sur le centaure, mais adverbialement sur celui qui l'imagine, qui se le représente, fingerend, en anglais imaginatively, imaginativement. Donc les énoncés sur le centaure portent sur le psychiquement actif, hein, le psychisch tätiges. Alors, il n'est, pour bien comprendre cette thèse, hein, que de rappeler le passage de l'appendice 16 de la psychologie comme au point de vue empirique, la psychologie au point de vue empirique ou du point de vue empirique. Le 16e appendice, vous savez qu'il y a eu plusieurs éditions de la psychologie et une contient un texte, un appendice, l'appendice numéro 16, sur lequel je reviendrai, mais duquel j'extrais pour le moment cette série d'énoncés qui visent à une seule chose, si j'ose dire, qui n'ont qu'un seul objectif, éliminer les faits au profit des vraies choses, des choses particulières. C'est dans la perspective réiste, c'est-à-dire d'une philosophie de la chose particulière, où n'existent que les choses particulières. C'est pas compliqué, le réisme, c'est ça. Hein, bon. Éliminer les états de choses, éliminer les faits, éliminer les objectifs au sens de Meinung, éliminer toutes ces entités dites platoniciennes au bénéfice uniquement des vraies choses. Eh bien, dans cet appendice 16, donc consacré à l'élimination des faits au profit des vraies choses, on voit que Brentano passe de « qu'il y ait un centaure est faux », donc « qu'il y ait un centaure », c'est le fait qu'il y ait un centaure, ou bien le « qu'il y ait un centaure », comme état de choses, est faux. Ah, il n'y a pas de centaure. Puis, c'est très embarrassant quand même de se dire, bon, de quoi est-ce que je parle si je dis il n'y a pas de centaure, puisque précisément, il n'y a pas de centaure. C'est toujours le paradoxe de la référence vide. Donc, il passe de la... il n'y a aucune chose à pointer. On veut éliminer les faits au bénéfice des choses singulières. Mais bon, il n'y a pas de centaure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de centaure. Est-ce que c'est faux sous prétexte que le sujet n'aurait pas de référence? Le centaure n'existe pas. Arrêtons. Qu'il y ait un centaure est faux, mène à il n'y a pas de centaure. Et il n'y a pas de centaure mène à cette théorie extraordinaire. Quiconque reconnaît un centaure reconnaît faussement. Qui anerkennt, accepte l'existence, reconnaît, eh bien, il reconnaît faussement. Ou celui qui reconnaît un centaure, donc on va l'appeler le reconnaissant un centaure, et celui qui juge faussement, le jugeant faussement, sont, et eux seuls, ces noms-là, ces noms bizarres, le reconnaissant un centaure ou le jugeant faussement, sont présentés, et eux seuls, comme des noms de choses. Les seules choses qu'il y ait, c'est quelqu'un qui juge ou quelqu'un qui reconnaît anerkennt, mais de centaure, il n'y a point. Centaure n'est pas un nom de chose. Alors, vous voyez la phrase. Lorsqu'il s'agit d'une proposition qui reconnaît quelque chose comme fait, un fait, Sachlage, ou bien un état de choses, state of affairs, on dirait en anglais, on peut également lui substituer une proposition équivalente qui comporte la reconnaissance ou la dénégation d'une chose, d'un particulier, proprement dite. Ainsi, la proposition « qu'il y a une chose est vraie » équivaut à celle-ci « il y a une chose ». La proposition « qu'il y ait un centaure est faux » équivaut à celle-ci « il n'y a pas de centaure ». On pourrait peut-être pourtant préférer une autre équivalence. « Quiconque reconnaît un centaure reconnaît faussement » car le sujet qui reconnaît un centaure et celui qui porte un jugement faux sont des expressions qui désignent des choses, alors que centaure n'en est pas une. Le peut-être, dans cette phrase, on pourrait peut-être préférer une autre équivalence, le peut-être est trop, en fait c'est assurément, n'est-ce pas ? Et c'est le dernier étage de la théorie, de la fusée brentanienne. La théorie adverbiale du jugement est non seulement centrée sur les actes du sujet, elle est en réalité centrée sur le jugeant lui-même, promu dans le dernier état de la théorie de Brentano au statut d'unique porteur de vérité. C'est ce que je résume par ceci. Le jugeant est le truth bearer, le porteur de vérité, comme on dit aujourd'hui en logique. Beaucoup de gens vous diront « non, c'est la proposition qui est le porteur de vérité, etc. » Ici, non, c'est le jugeant, c'est même pas son acte de juger. c'est le jugeant lui-même. Dire que aucun S n'est P, dit Brentano. Qu'est-ce que c'est que dire cela? C'est se représenter quelqu'un qui juge un S et P et dire que ce quelqu'un qui juge un S et P juge faussement. Vous vous rendez compte de cette duplication extraordinaire pour préserver un discours qui ne porterait que sur des choses. Donc, dans la théorie brentanienne du jugement, le jugeant est l'unique vériporteur, porteur de vérité, truth bearer. Monsieur Roche-Szak, qui est mort d'ailleurs, a dans un livre très intéressant intitulé, et posthume, n'est-ce pas, From the Act of Judging to the Sentence, de l'acte de juger à la sentence, à la phrase, le problème des porteurs de vérité, the problem of truth bearers, de Bolzano à Tarski. Eh bien, Roche-Szak parle du judger. Hein. Si on s'intéresse donc à la partie réiste de la philosophie de Brentano, donc je commence à la quatrième ligne, étant donné que le temps avance, given Brentano's reistic ontology of mind, étant donné l'ontologie réiste de l'esprit qu'a adopté le dernier Brentano, there are no judging acts. Il n'y a même plus des actes de jugement. Il n'y a que des judging persons. Il n'y a plus que des personnes jugeantes. Dans la théorie réiste, par conséquent, le porteur de vérité est quelqu'un qui juge, c'est-à-dire le jugeant. En allemand, c'est mieux, der Urteilende. And the judger can judge truly and falsely. Et le juge peut juger véridiquement ou faussement. Vous voyez la formulation adverbiale. Thus, in the proper sense, the word true should be predicated of a judger. Par conséquent, au sens propre, le mot vrai devrait être prédiqué du juge, d'un jugeant, d'un der Urteilende. Par conséquent, nous avons toujours affaire et nous devons nous occuper de personnes jugeant vraiment, véridiquement, véracement ou faussement, et non pas à nous occuper de jugements vrais ou faux. C'est à ça qu'on a vraiment affaire, ontologiquement. Donc le porteur de vérité, pour finir, est un sujet S, n'est-ce pas, qui, in the act of consciousness, dans un acte de conscience, asserte ou rejette l'objet of presenting, un objet de Vorstellung, de présentation, de représentation. Donc le réisme est la forme extrême de l'économie en ontologie, n'est-ce pas? Je résume ça par la phrase suivante, il n'y a d'objet que le sujet. Appendice 9, qui date de 1911, toujours dans la psychologie du point de vue empirique, on va terminer par cela. L'être ou le non-être d'un centaure ne peuvent devenir objet. Vous voyez, je ne parle même pas du centaure, mais de son être ou de son non-être. Hein, d'un fait, qu'il y ait un centaure ou qu'il n'y ait pas un centaure. L'essai d'un centaure ou le non-essai d'un centaure. La subsistance ou la non-subsistance d'un centaure dans un monde platonicien d'ombre. Hein, l'être ou le non-être d'un centaure ne peuvent devenir objet au sens où pourrait le devenir le centaure lui-même. Pourrait le devenir, s'il existait. Seuls peuvent devenir objet celui, dans ce cas précis, qui affirme et celui qui nie le centaure. Auquel cas, le centaure devient également objet selon un certain mode oblique, hein, par le biais donc de ce qu'on a vu, c'est-à-dire cette remarquable théorie, hein, sur laquelle dire aucun S n'est P, par exemple, c'est se représenter quelqu'un qui juge un S et P et dire que ce quelqu'un qui juge un S et P juge faussement. Bon, bien là, on a la même chose, mais à propos du centaure. Par conséquent, seules les choses qui tombent toutes sous le même concept du réel de la chosique, n'est-ce pas, peuvent devenir objets pour des relations psychiques. Ni le présent, le passé et l'avenir, ni ce qui est présent en tant que présent, passé ou futur, ni l'existence, ni la non-existence, ni ce qui existe ou ce qui n'existe pas, ni la nécessité, ni la non-nécessité, ni la possibilité, ni l'impossibilité, ni ce qui est nécessaire ou non nécessaire, possible ou impossible, ni la vérité, ni l'erreur, ni ce qui est vrai ou faux, ni la bonté, ni le vice, ni ce qu'Aristote appelle actualité, energeia, entelecheia, ou forme, eidos, logos, morphé, c'est-à-dire ce qui correspond dans le langage au mot abstrait, rougeur, forme, nature de l'homme, etc., ni les objets en tant qu'objets, c'est-à-dire par exemple ce qui est reconnu, rejeté, aimé, représenté, rien de tout cela ne peut jamais, au même titre que le réel, devenir l'objet de nos relations psychiques. Un immense coup de balai ou de rasoir qui nous fait retrouver, comme après un tsunami, le monde de la querelle des universaux. Un monde dont nous pouvons, la conscience tranquille, à présent prendre congé, il ne reste plus rien, mais le jugeant est aussi un véridicteur, un sujet de véridiction, un sujet de vérité, quelqu'un qui dit vrai, quelqu'un qui pense juste, quelqu'un qui juge vrai, autrement dit vraiment. Voilà que nous retrouvons de rechef, pour finir ce séminaire, l'expression foucauldienne rencontrée tout à l'heure au moment de finir le cours, en posant la question de l'articulation entre sujet de désir et sujet de vérité. On l'a dit en commençant cette ultime séance, une même expression ne fait pas une même pensée, ni une même théorie. Le sujet de véridiction, le truth teller, comme on dit parfois aujourd'hui, ce que j'appelle le véridicteur, appartiennent à des univers différents de celui de Foucault. Ils méritent d'être évoqués pour eux-mêmes. Nous le ferons. Il nous faudra toutefois patienter quelques mois avant de renouer les fils, de retrouver Brentano, le centaure et les théories médiévales et modernes du jugement. Pourrez-vous tenir jusque-là? Je ne sais pas. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.